Vous avez des préoccupations, un besoin d'orientation? Radio Okapi réunit des spécialistes compétents dans Okapi Service. Toute une équipe de journalistes fait le lien entre eux et vous. Santé, emploi, santé au monde rural, droits des citoyens, ONG, tous les domaines de la vie sont concernés. Okapi Service, de lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa. Okapi Service, des astuces simples pour sortir des situations compliquées.
Encore une fois, bonjour pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Vous savez que parmi les mots qui rongent la société congolaise, on cite notamment la corruption, un acte par lequel une personne touche illégalement de l'argent ou autre chose de valeur pour un service lié à sa pension. Mais quelles sont finalement les différentes formes de corruption et quelles sont les sanctions prévues par la loi congolaise? Nous en parlons aujourd'hui avec Maître Dominique Amandou, avocat à l'ONG Avocats Sans Frontières, et nous rappelons encore une fois à tous ceux-là qui veulent nous appeler, hein, qui peuvent le faire, qui peuvent participer à cette émission, en réagissant au 081 070 2050 avec des SMS, ou si vous voulez intervenir directement, faites-le donc au 081 890 63 94. Maître Dominique, bonjour.
Bonjour Nicole.
C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission Capi Service. Alors aujourd'hui avec vous, nous parlons de ce que la loi dit en cas de corruption. Nous savons qu'il existe, il y a souvent des cas de corruption dans ce pays, hein. On en parle fréquemment. Mais quelles sont les différentes formes de corruption qu'on peut rencontrer, Maître Dominique Amandou?
Merci beaucoup Nicole. Nous précisons d'abord que la corruption, comme vous venez de le dire et comme tout le monde le sait, est un mal qui ronge terriblement la société congolaise. Certains parlent même que c'est un cancer, comme pour dire que c'est incurable et je ne sais pas encore quoi. Mais au terme de l'article 147 du Code pénal congolais, la corruption est définie comme le fait pour un fonctionnaire ou un officier public ou pour toute personne qui représente l'État ou qui agit au nom de l'État ou qui représente les intérêts de l'État à quelque titre que ce soit. Le fait pour cette personne d'agréer des offres ou de recevoir des cadeaux pour faire un acte de sa fonction, de sa mission ou de son emploi. Que cet acte soit juste ou injuste, c'est-à-dire même si on a fait ce qu'on devait faire, mais dès lors qu'on a perçu de l'argent ou on en a exigé ou on a agréé des offres pour pouvoir le faire, cela est considéré comme corruption et réprimé par la loi. Mmh. Et la peine peut aller de 6 mois à 2 ans de prison. Mais lorsqu'il s'agit d'un acte juste, c'est-à-dire vous êtes un juge, par exemple, je prends l'exemple dans le domaine de la justice que j'aime bien retenir.
C'est un bon exemple.
Vous êtes un juge, vous êtes en face de deux parties. L'un est demandeur, le défendeur, l'une des parties vous donne de l'argent pour faire votre travail. Même si vous avez rendu une bonne décision en donnant le bon droit lorsque vous avez perçu de l'argent, cela est considéré bien sûr comme acte juste, le fait que vous ayez donné une bonne décision conformément à la loi. Mais le fait d'avoir agréé des offres ou d'avoir reçu des dons est constitué comme corruption et cela est punissable. C'est là que l'on parle de l'acte juste. Et l'acte injuste, c'est lorsque vous avez, par exemple, en tant que juge, reçu de l'argent ou des présents et que vous avez dit un mauvais droit, vous avez donné une mauvaise décision. Vous avez dit, par exemple, que la personne qui avait raison a tort, là vous avez commis un acte injuste. Et dans ces cas-là, la peine peut aller de 4 à 10 ans de prison.
Oui, alors on retient une chose, on retient deux choses. Il y a l'acte qui peut être juste, mais tomber quand même sous l'effet de la corruption.
Effectivement.
Et l'acte qui peut être injuste, et également tomber sous l'effet de la corruption.
Effectivement.
Mais alors comment savoir que cet acte est juste ou injuste?
En principe, lorsque la corruption, il y a eu corruption, on doit mener des enquêtes.
Qui mène les enquêtes?
La justice qui est saisie. Et mener des investigations sur l'acte qui a été posé. Et voir dans le cadre de la personne qui a commis l'acte, est-ce que cet acte rentre dans le cadre de ses attributions? Est-ce que cet acte est concret, est correct avec ce que la loi lui demande de faire ou pas? C'est dans ce moment-là qu'on peut déterminer un acte juste ou injuste. Mais la loi ne s'arrête pas là. La loi dit qu'on peut aussi commettre une infraction. C'est des cas que l'on voit. Et lorsqu'il y a eu infraction à la suite d'une corruption, à ce moment-là, la peine peut aller jusqu'à 15 ans de prison.
C'est très bien de donner un exemple pour ceux qui le suivent, maître.
Effectivement, à titre d'exemple, quelqu'un qui a un dossier en justice ou dans l'administration qui donne de l'argent à un fonctionnaire pour obtenir un faux document, pour que ces documents, par exemple, puissent le couvrir, ou pour qu'il puisse se prévaloir de ces documents. Dans ce moment-là, le fonctionnaire qui fait un faux document commet un faux en écriture. C'est-à-dire, il a perçu de l'argent, il y a eu corruption, et cette corruption l'a amené à commettre une infraction.
Je prends l'exemple, simple, parce qu'il y a beaucoup de documents ici, dans ce pays, prenons l'exemple d'un passeport. Et puis, un monsieur qui remet de l'argent à un fonctionnaire, au niveau du service des affaires étrangères, pour obtenir le passeport, est-ce qu'en ce moment-là, on peut dire que ce monsieur-là a corrompu cet agent, ce fonctionnaire des affaires étrangères?
Lorsque, même si cette personne fait son travail, mais lorsque cet acte qu'il doit poser n'est pas sujet au paiement quelconque, c'est-à-dire la personne est en règle à payer tous les frais officiels tels qu'exigés, et que cette personne demande de l'argent, même par personne interposée, ou reçoit de l'argent pour faire un acte de sa fonction, il y a corruption. Et cela peut aussi être considéré comme concussion lorsque une personne assigné à certaines tâches exige plus que ce que l'État a fixé. À ce moment-là, il n'y a pas de corruption, là, il y a concussion.
Oui, mais bon, on a l'impression que finalement, il n'y a que des cas de corruption dans tous les domaines de la fonction publique, maître Dominique Amoindo, parce que nous savons que dans la plupart des cas, ça se passe comme ça. On remet de l'argent à l'agent de l'État pour obtenir un document et on veut que ça soit vite fait, souvent dans bien des cas. Donc, ça veut dire que la population est en train de corrompre tous ces agents, tous ces fonctionnaires de la fonction publique.
Effectivement, nous nous sommes retrouvés dans un environnement où on ne sait plus obtenir un acte normalement sans avoir donné des pots de vin, sans avoir donné ce qu'on appelle parfois frais de motivation. Mais tout ça, lorsque nous analysons la loi, tout ça tombe dans le coup de la corruption.
Donc, tous ceux qui tombent sur le coup de la corruption devraient être condamnés à 3 mois, 6 mois.
La peine va de 6 mois à 2 ans pour un acte juste, lorsque la personne qui a été corrompue a posé un acte juste. Et la peine peut aller de 4 ans à 10 ans lorsqu'il s'agit pour un acte injuste au terme de la loi, et à 15 ans lorsqu'il s'agit d'une infraction. Mais n'oublions pas que la loi punit aussi bien l'auteur actif que l'auteur passif de la corruption. Les deux personnes sont punissables, et les corrompus et le corrupteur.
Voilà, donc on devrait être prudent pour ne pas tomber sous l'effet de la loi. Alors, on va recevoir un auditeur qui vient de nous appeler. Il s'appelle Albert Kaminda, il est de Kananga. Albert Kaminda, bonjour.
Bonjour, c'est Albert Sanga Kaminda. Je suis content de l'émission. Je voudrais juste demander ceci. Lorsque on se retrouve, un magistrat se retrouve devant un cas tel qu'un ministre a été corrompu et il va normalement trancher cette affaire, est-ce que, avec l'état actuel de l'état de conscience qu'a un tout Congolais dont la vie est soutenue par la corruption et les antivaleurs qui sont devenus des thèses de vie libre, je ne sais pas, ce magistrat-là pourra-t-il normalement rendre le jugement ou bien il doit se laisser tomber par l'influence du corrupteur?
Voilà, merci pour votre question. Maître Dominique.
Merci, Albert. Au terme de la Constitution, les juges sont indépendants. En principe, la justice est indépendante et le juge doit jouer son rôle en toute indépendance et en dehors de toute influence. C'est ce qui est prévu par la Constitution et ce qui est recommandé comme attitude. Nous constatons qu'il y a plusieurs interférences dans la mission de dire le droit des autorités militaires, gouvernementales, des autorités politiques d'une manière générale qui s'ingèrent dans la mission de dire le droit, et c'est ce qui rend les juges dépendants ou qui met les juges dans une situation où ils n'est plus en mesure de bien dire le droit. Et une autre difficulté, c'est que les juges se trouvent parfois même butés à des pressions de sa même hiérarchie, la même hiérarchie qui flirte avec le pouvoir, qui donne des injonctions ou des recommandations pour qu'un dossier soit jugé dans tel ou tel autre sens. Ça, c'est des difficultés réelles auxquelles nos juges sont confrontés, parfois en dépit de leur bonne volonté.
Oui, mais qui peut faire le contrôle de façon à ce que le juge ne soit pas le maître absolu et qu'il puisse faire le droit de n'importe quelle manière? Qui peut faire un contrôle, maître
Damien? En principe, lorsque une décision est rendue, la personne préjudiciée ou qui n'est pas d'accord avec une décision a le droit, la loi lui reconnaît le droit d'aller en appel pour que les juges supérieurs examinent la décision du juge inférieur, puissent voir si le juge a bien dit le droit ou pas. En dehors de ça, il y a les services d'inspectorat de services judiciaires, il y a les conseils supérieurs de la magistrature, puisque ces services peuvent être saisis des plaintes à charge des juges. À ce moment-là, ils peuvent examiner
Oui, nous rappelons encore une fois à tous ceux qui souhaitent intervenir, hein, qui peuvent le faire au 081-070-2050 pour les SMS. Ils peuvent aussi nous appeler directement, comme tout à l'heure nous avons eu le cas d'Albert, au 081-890-63-94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capitardi.
Nous avons ligne Benjamin Malekani, il est de Dungu. Benjamin, vous êtes avec nous, quelle est votre question?
Oui, c'est bien, merci. Ma question est de l'aider de vous passer.
Allez-y.
Si j'ai besoin de savoir si, par exemple, à l'école, un procès parvient à être corrompu par un élève, est-ce qu'on peut le punir ou comment? Et deuxième préoccupation, par exemple, là où on fait la justice, en concernant la justice, on arrive peut-être à être corrompu par un plaidoyer. Est-ce que dans ce cas, on peut punir celui-là ou comment?
Mm-hmm. Maître Dominique a bien suivi vos questions, il va répondre dans un instant, mais tout de suite, on reçoit également Jean-Paul Menji de Kinshasa. Jean-Paul, vous avez la parole.
Et bonjour madame, bonjour à tous les têtes de la radio Capi. Je tiens à remercier l'intervenant de tout à l'heure pour la qualité et le sujet que vous avez choisi. Ma question se situe au niveau de la différence qui existe entre la concussion et la corruption. Qu'on nous parle un peu de ces éléments, la concussion et la corruption. Et quelles sont dans les deux cas les sanctions qui sont prévues dans le cas de la concussion et dans le cas de la corruption. Mais aussi, la seconde intervention était celle de savoir, tout à l'heure, là, notre intervenant, c'est un avocat que nous connaissons de la place, il prend toujours des positions à la radio, à la télé,
ah bon?
Le suivant. Mm-hmm. Mais aussi, qui nous parle un peu, qu'est-ce qui fait que l'État congolais ou les tribunaux congolais mettent pas en œuvre les sanctions qui sont prévues par les législateurs. Parce que nous nous rendons compte que notre pays, c'est un État qui est caractérisé par les anti-valeurs. Donc nous sommes même placés au 20e étage du sous-sol. Parce que dans notre pays, c'est l'impunité qui bat son record. Qu'est-ce qu'il faut pour sortir notre pays de ces coffres où il est enfermé jusqu'au jour?
Des questions très pertinentes. Et maître Dominique, ce sera un plaisir d'y répondre dans un instant. On continue avec Onze Mabunga de Manaka. Onze, quelle est votre préoccupation?
Bonjour. Ma préoccupation est ceci. Que dira la loi congolaise en cas de nécessité pour les cas d'infraction de la corruption?
Oui, s'il vous plaît, répétez votre question.
Que dit la loi congolaise en cas de nécessité pour l'infraction de corruption? C'est-à-dire que quelqu'un qui veut protéger ses intérêts en passant par la corruption. Donc la corruption est le seul moyen pour protéger son droit.
Oui, mais maître a répondu à cette question, il a dit qu'il y avait des sanctions qui étaient prévues par la loi. Mais bon, il va encore répéter une fois de plus, hein, de son maître Dominique.
Ok, merci beaucoup Nicole. On précise d'abord pour la préoccupation du premier intervenant, que les deux cas, que ce soit les cas du fonctionnaire ou de l'enseignant, les deux sont punissables au regard de la loi. Nous avons dit que les sanctions vont de 6 à 2 ans de prison lorsqu'il s'agit d'un acte juste. Pour ce qui est de la différence entre la concussion et la corruption, donc la corruption est le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'État ou toute personne qui représente les intérêts de l'État d'agréer, d'accepter des dons, des offres pour faire un acte de sa fonction ou pour s'abstenir de poser un acte. La sanction, on l'a répété tout à l'heure, lorsqu'il s'agit d'un acte juste, la sanction va de 6 mois à 2 ans, et lorsqu'il s'agit d'un acte injuste, la sanction va de 4 à 10 ans, et lorsqu'il s'agit d'une infraction, la sanction peut aller jusqu'à 15 ans de prison. Et la concussion, elle est faite pour un fonctionnaire d'exiger plus que les frais fixés par l'État. Vous allez, par exemple, dans une commune, vous avez besoin d'un acte de naissance. L'acte de naissance, au terme de l'arrêté qui détermine l'État à payer, il faut payer 1000 francs. Et le fonctionnaire commis à cette tâche vous exige
30 ou 50
francs. Voilà, vous exige plus.
Oui.
Ou vous exige forcément de l'argent pour faire ce travail. C'est là, c'est ça la confusion. La différence est que dans un cas, on reçoit des offres pour faire son travail, et dans l'autre, on exige plus ou ce qui n'est pas prévu par la loi. Donc c'est ça la différence. En ce qui concerne pour ce qui est de la confusion, la peine peut aller de 6 mois à 5 ans de prison. Je ne sais pas, il y a une autre
question. Il y a une question qui avait été posée par le premier auditeur. Il a donné l'exemple d'un professeur qui se fait corrompre par son élève. Quelles sont les sanctions qui sont prévues dans ces cas-là?
Effectivement, je répète parce que je venais de répondre à la question pour dire que les sanctions, dans ces cas, si le professeur a exigé de l'argent et que l'enfant a bien travaillé dans l'école, lui donne ses causes, normalement, là, il s'agit d'un acte juste. Là, la peine peut aller de 6 mois à 2 ans. Mais lorsque le professeur reçoit de l'argent pour donner à l'enfant des notes qu'il n'a pas reçues, là, le professeur commet un acte injuste. Dans ces cas, la peine peut aller jusqu'à 10 ans de prison.
Il faudrait, il faudrait dénoncer.
Une autre préoccupation était de savoir, tout le monde est au courant qu'il y a plusieurs cas de corruption dans notre pays, mais on n'en voit pas devant la justice. Le problème, c'est que ces cas, pour la plupart des cas, ne sont pas soumis à la justice, et que dans d'autres cas, comme la corruption a deux acteurs, il y a l'acteur actif et l'acteur passif, les deux sont condamnables, ce qui veut dire que nul ne se trouve en position de pouvoir dénoncer cet acte. Le non-dénonciation fait que l'on puisse avoir des difficultés à pouvoir poursuivre. Mais aussi, on a difficulté à avoir des preuves lorsqu'on sait que c'est une infraction qui se commet généralement en cachette. Les gens ne s'exposent pas pour se corrompre.
Donc on retient Maître Dominique pour qu'il y ait ces sanctions, pour que réellement ces sanctions soient appliquées. Il faudrait que la population apprenne à dénoncer les cas de corruption. Donc on ne dénoncera pas ces cas de corruption, il n'y aura pas de sanctions.
C'est difficile de les découvrir.
C'est assez compliqué.
Mais il faut aussi que les services qui sont chargés de faire l'inspection, de faire l'audit, fassent correctement leur travail. Parce qu'on peut aussi se rendre compte de cela à partir des audits, à partir de l'analyse de certains documents. Je vais donner un exemple banal. Je vois par exemple un juge qui rend une décision pour violence sexuelle, qui dit que l'infraction de viol est établie et condamne la personne par exemple à 1 mois de prison. Et pourtant, la peine minimum prévue par la loi, c'est 5 ans. Un tel jugement devrait interpeller même les juges d'appel qui les lient. Est-ce que ces juges ont fait ça parce qu'il est ignorant de ce que prévoit la loi?
Oui,
il a été intéressé.
Ça
peut aussi arriver que les juges soient ignorants. Mais c'est des cas rares avec le nombre de formations qu'on a organisées, par exemple sur cette thématique des violences sexuelles. Des cas comme ça devaient interpeller. Les services chargés de l'inspection, du contrôle, devaient ouvrir l'œil, et ces services peuvent facilement découvrir pareil cas, aussi bien dans l'administration, dans la justice, que dans la gestion.
Oui. Alors, on récapitule pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Vous avez fait la différence entre la corruption et la concussion. Vous avez dit que pour les deux cas, c'est vraiment différent. On peut tomber sous l'effet de la corruption. Mais sous l'effet de la concussion, ça va au-delà parce que là, il y a abus, il y a même tricherie. Vous avez donné l'exemple d'une personne qui va à l'administration publique et qui achète un document au-delà du prix normal.
Voilà.
Donc, on abuse un peu de la confiance de cette personne-là parce que, on est sous-informé. Ça, c'est donc la concussion. Mais la corruption, c'est qu'on triche carrément, on va corrompre quelqu'un en voulant avoir aussi un document. Mais là, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas, je dirais, exagération du prix, mais on a juste triché avec l'administration pour avoir ce document-là. On lui a donné un peu d'argent pour avoir le document.
Voilà.
Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent malgré tout pas et qui souhaiteraient encore avoir plus d'informations. Alors, nous rappelons à tous ceux qui veulent comprendre, qui peuvent nous appeler au 081 070 2050 avec des SMS et qui peuvent aussi nous joindre directement au 081 800 90 63 94.
La course relais de la formation sportive sur Radio Okapi. Nanambala, au démarrage, passe le relais à Dieu de l'Ekabé Anganoula qui fonce vers le micro et le passe à Kanif Mukongo Chambouille. Il fonce et se pose en tête à la sortie du virage où Kesson Mulumbala attend. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et. Victoire! Le 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tous les dimanches à partir de 15h vers le Kinshasa.
Parmi les mots qui rongent la société congolaise, on cite notamment la corruption. C'est un acte par lequel une personne touche illégalement de l'argent ou autre chose de valeur pour un service lié à sa fonction. Mais aujourd'hui, nous en parlons parce que nous savons qu'il y a des différentes formes de corruption. Vous avez suivi tout à l'heure Maître Dominique. Et il y a aussi des sanctions qui sont prévues par la loi congolaise, mais à condition de dénoncer tous ceux qui tombent sur le fait de la corruption. Il faut les dénoncer, hein, cher auditeur de Radio Capi. Raison pour laquelle nous avons associé Maître Dominique Kamandou afin qu'il puisse répondre à vos questions. Et nous avons Christophe Mabi de Kananga qui est en ligne. Christophe, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, quelle est votre préoccupation?
En tout cas, ma préoccupation est la suivante. J'ai un différend avec mon conseil. C'est-à-dire, j'avais un problème au niveau du tribunal. Alors, mon conseil est allé prendre l'argent de corruption à celui avec qui j'avais le différend. Et il est en train de geler mon dossier là. Il a essayé un peu de me tromper dans les histoires de droit là. Quand je suis parti voir le baron, on pourra me dire que non, il faut nous donner des preuves qu'il a pris l'argent, il faut exploiter presque toutes les preuves. Alors je voulais demander à notre invité, en cas d'espèce, quelle procédure puis-je prendre pour réellement faire sortir toutes ces preuves-là? Puisque réellement, même si avec qui j'ai le différent, il est en train de prôner publiquement qu'il a donné l'argent à mon conseil. Bon, et puis ça se voit même à lui, puisqu'il est en train de geler, il ne vient pas répondre aux audiences, il est en train de faire des manigances impossibles. Mmh. Alors, qu'est-ce que je peux faire?
Ok, Maître Dominique a bien retenu votre préoccupation. Il va répondre dans un instant. Hein. Alors, on va tout de suite recevoir également Joanne Batena, qui nous suit depuis Lubumbashi. Joanne, vous êtes en ligne, alors quelle est votre question?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Ok, je voulais demander à votre invité pour un cas très précis, c'est-à-dire je demande à un fonctionnaire de l'État pour m'obtenir un document, il me donne le prix normal et moi je lui donne avec un surplus, peut-être pour l'encourager.
Oui.
Est-ce que ce cas on peut le considérer comme aussi une correction?
Oui. C'est même vous tombez même sur le fait de construire, mais vous le faites volontairement, hein, je crois. C'est un
non,
peu ça.
Là, peut-être j'ai besoin d'une association de nationalité.
Mm-hmm.
Et il me dit que le prix c'est 30, mais moi je donne par exemple 50, peut-être pour l'encourager.
Volontairement.
Ça, c'est de ma propre bonne volonté.
Ok. Mettre de l'exemple. Ok, donc là, l'administrateur en question n'a pas touché, mais c'est vous-même qui le faites volontairement.
Oui.
Ok, on retient votre préoccupation, c'est tout? C'est une préoccupation que vous avez?
Oui, c'est tout.
Ok. Maître Dominique, merci beaucoup. Vous avez suivi les deux préoccupations de nos auditeurs. La première, c'est la préoccupation de Christophe, qui aimerait qu'on lui donne un petit conseil en fonction du problème qu'il rencontre. Et puis, Joanne Batenancy vous a posé une question pertinente, hein, Maître Dominique. Alors, quelles sont vos réponses?
Oui, en ce qui concerne la première préoccupation, l'intéressé est déjà sur la bonne voie parce qu'il a saisi le barreau. C'est ce que je devais conseiller comme procédure lorsqu'il constate des négligences ou des manquements dans le travail d'un avocat. Effectivement, en ce qui concerne les infractions ou toute corruption, la charge de la preuve revient à la personne qui allègue les faits. Vous dites que votre avocat est corrompu, le conseil de l'ordre ne va pas les sanctionner comme ça sur base de simples déclarations, parce que là aussi il y a risque de verser dans l'arbitraire.
Mm.
Mais il faut prouver cela. Comme lui-même l'a dit par exemple tout à l'heure, que la personne qui a corrompu les déclare publiquement. C'est-à-dire qu'il y a des témoins. Les témoignages peuvent être aussi considérés comme preuve. Donc ces personnes qui ont entendu ces déclarations, ils peuvent dans sa plainte préciser au conseil de l'ordre que les déclarations ont été faites en présence de telle personne. Et à titre d'exemple, à l'issue de ces déclarations, l'avocat a manqué à tel devoir, quand on peut les vérifier, par exemple, à travers les extraits des rôles. Parce que dans les extraits des rôles, quand on lit la feuille d'audience, on dit que l'avocat a comparu à l'audience ou n'a pas comparu, s'est fait représenter ou ne s'est pas fait représenter. S'il réunit ces éléments, il peut obtenir des preuves qui peuvent permettre au conseil de l'ordre de pouvoir juger son cas en âme et conscience vis-à-vis de cet avocat.
Mais la première condition, que ces témoins ne changent pas après l'avis, hein, qu'ils ne passent pas, comme on le dit, de faux témoignages après.
Mais les faux témoignages sont aussi punissables par la loi. C'est question de pouvoir de donner leur identité et le conseil de l'ordre pourra les inviter et les entendre, les poser toutes sortes de questions pour pouvoir découvrir la vérité.
Et pour Joanne,
en ce qui concerne le fait pour une personne de donner plus, le fonctionnaire lui dit de bonne foi que
c'est 30 dollars,
lui donne plus
volontairement.
Et que cela n'a pas été exigé ou sollicité, c'est difficile parce que la loi dit le fait de recevoir pour poser un acte et le fait de recevoir peut aussi être considéré comme infraction. Si on l'a exigé, mais si on ne l'a pas exigé, cela peut être considéré comme une circonstance atténuante. Les juges pourront en tenir compte. Et dans ce cas-là, on peut même dire qu'il n'y a pas.
À comprendre que le juge le sache.
Il n'y a pas d'infraction.
Oui. Maître Dominique Amandou, on va s'arrêter là. C'était une question vraiment intéressante. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce que dit la loi en cas de corruption. Et même, nous sommes allés au-delà en cas de corruption aussi. On va vous retrouver certainement lundi prochain pour un autre sujet en rapport avec les droits. Nous remercions tous ceux qui ont pu intervenir sur cette question. Et nous allons poursuivre notre balade à travers le pays avec d'autres questions. Merci beaucoup, Maître Dominique Amandou. À la prochaine.